Voici le deuxième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1958. Et pour cet épisode, j'ai retenu, vous n'y couperez pas, que 58 est l'année de Gaulle. J'évoquerai aussi une candidature loufoque à l'élection présidentielle. Je parie que vous ne connaissez pas Ferdinand Lop, ce zic qui veut mettre Paris à la campagne. Un peu d'amour ensuite avec la belle romance entre Piaf et Moustaki. Et enfin, un chien guérisseur. Allez, c'est parti, on file en 58.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1958.
1958 est avant tout l'année du retour du général de Gaulle, sur fond de ce qu'on appelle les événements en Algérie.
Vous écoutez Europe numéro 1 sur 1647 mètres, grandes ondes, boîte postale 150, Paris 8e. Toute la journée, sous la direction de Maurice Siegel, journalistes et reporters d'Europe numéro 1 ont recueilli pour vous informations et reportages. Et voici maintenant Europe Soir, transmis en direct depuis la salle de rédaction.
Et maintenant, nous allons nous diriger vers Alger pour avoir en détail la situation sur cette journée à Alger.
Ici Charles Frédéric, qui vous parle d'Alger, Europe numéro 1. Ben, Alger semble descendre dans la rue. La grève est totale et générale. Aucun magasin n'est ouvert depuis 13 heures. Il n'y a pas de transport. National, slogan Algérie française. Pendant plus de trois heures, ce ne fut qu'une succession de cris et de chants. L'accès du monument aux morts est maintenant complètement bloqué. Il est 16h45 à Mamond et aussi loin que le regard puisse s'étendre, ce n'est qu'une mer humaine. Alger tout entier semble être descendu dans la rue. 18h15, le général Salan, le général Allard, l'amiral Oguano passe au milieu de la foule, vivement applaudi, ainsi que le général Massu, et l'on crie armée au pouvoir.
Ici Charles Finalperi qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro 1.
Ce 13 mai 1958, à Alger, les généraux Massu et Salan prennent la tête de la foule en colère. Ils accusent le gouvernement de René Coty d'être trop tendre avec l'Algérie, et ils lui reprochent de vouloir céder l'Algérie. Et ça, ils n'en veulent pas. Et l'ancien gouverneur général d'Algérie, Jacques Soustelle, ne voit qu'un homme pour régler la situation.
Je crois que parmi les hommes actuellement vivants, qui ont en France un nom et un prestige et une autorité, le général de Gaulle me paraît parmi les plus qualifiés.
De Gaulle a quitté la présidence de la République française depuis 12 ans. Le 19 mai 1958, le général s'exprime sur le sujet algérien lors d'une conférence de presse.
Mesdames, messieurs, ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. Utile comment? Eh bien, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?
Mais dans l'Hexagone, tout le monde ne veut pas du retour du général. Les socialistes, les étudiants et les ouvriers qui le font savoir.
Le défilé continue toujours. Je compte des rangs de 20 qui défilent à peu près à la cadence de 500 par minute. Toujours les pancartes, toujours les banderoles, toujours les mêmes slogans répétés par la foule. Les slogans sont maintenant plus nombreux sur les pancartes. C'est ainsi que je lis « Le fascisme ne passera pas », « Non à De Gaulle », « L'armée au service de la République », « Abat les ultras d'Alger », « Halte au fascisme », Unité, travailleurs, unissez-vous. Et la foule des manifestants reprend ses slogans en les cadençant.
Tous têtes à la poubelle, main-dessus, par-dessus, préparat à l'usine, préparat à l'usine, préparat à l'usine.
Le 28 mai 1958, entre 200 000 et 500 000 Parisiens disent non au retour de De Gaulle. Mais le 1er juin, le président de la République, René Coty, demande aux députés de se prononcer sur la nomination du général comme président du Conseil, autrement dit comme chef du gouvernement.
Au second étage de l'hôtel La Pérouse, le général De Gaulle suit depuis 15h22 l'évolution de la situation au Palais Bourbon. Dans les six chambres du second étage, le 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, qui servent de bureau au général et à son entourage, le téléphone ne cesse de sonner. Jamais le général ne prend directement l'appareil. C'est toujours messieurs Guichard, Pompidou ou de Bonneval, les trois plus proches collaborateurs du général, qui servent d'intermédiaire.
Résultat, 329 voix pour, 224 voix contre. Le 1er juin 1958, le général de Gaulle revient aux affaires. Et trois jours plus tard, le général se déplace à Alger pour un discours historique.
Je vous ai compris ! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Parce que vous offrez ce spectacle magnifique d'hommes qui, d'un bout à l'autre, quelle que soit leur communauté, communient dans la même ardeur et se tiennent par la main.
Comme prima, tu me donnes tant de joie. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora magica scende, la luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Solo così, come prima, più di prima t'amerò, per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Come prima tu me donnes tant d'amour, que j'espère te le rendre quand te reste dans tes bras. Come prima tu me donnes
Dalida, je suppose, avec son titre de 58, Come Prima.
L'année 1958.
En 1958, en France, se déroule l'élection présidentielle. Et un homme tente l'aventure. Les jeunes Parisiens l'adorent, c'est une icône du quartier latin. Il s'appelle Ferdinand Lope. Il est professeur, peintre, écrivain et poète. Et en 58, il se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle.
Où va la France? Les moyens d'en sortir. Deux questions qui ont fait profondément réfléchir Ferdinand Lope avant le grand meeting de Saint-Germain-des-Prés le 14 octobre. Ferdinand Lope, vedette politique de la jeunesse estudiantine de Paris, pénètre dans l'arène de la Réunion encadrée par sa garde de fer. Tenu juste la veille du terme, sous le signe « Comment en sortir ?», ce meeting était d'une brûlante actualité. Dès le début, le maître allait au cœur du sujet.
Et nous en arrivons maintenant aux moyens d'en sortir. Ces moyens, je ne vous les dirai pas.
Le programme de Lope est des plus savoureux. Par exemple, il propose d'installer Paris à la campagne pour mieux profiter du bonheur. Lope propose aussi d'allonger le boulevard Saint-Michel du 5e arrondissement de Paris jusqu'à la mer. Et enfin de diminuer la grossesse des femmes de 9 à 7 mois.
Lorsque je serai président de la République, ou même encore si le palais est président du conseil, ou alors les deux ensemble, j'appliquerai mon plan et personne d'autre.
Mais ce farfelu de Lope n'obtient pas les parrainages nécessaires pour se présenter. Et l'élection présidentielle de 58 se joue alors entre trois candidats plus consensuels. Le général de Gaulle, pour la Nouvelle République, Georges Marane, du Parti communiste français, et Albert Châtelet, de l'Union des forces démocrates. Précision importante, en 58, l'élection ne se déroule pas comme aujourd'hui. Le président de la République est élu au suffrage universel indirect. Ça veut dire que ce ne sont pas directement les Français qui déposent leur bulletin dans l'urne. Ce sont des députés, des sénateurs, des maires et des conseillers municipaux qui choisissent le président de la République. Le dimanche 21 décembre 58, 81 764 grands électeurs sont appelés à voter.
Une pancarte, élection du président de la République, salle de vote et une flèche qui m'indique que je suis dans la bonne direction. Je suis la foule des grands électeurs et me voici devant une salle, la salle Saint-Jean. Je suis toujours le défilé des grands électeurs. Première étape, c'est le vestiaire où les grands électeurs peuvent, s'ils le désirent, déposer leur manteau. Et je poursuis ma filature. Je monte un escalier immense de marbre. Et j'arrive à un premier embouteillage. Il y a environ 400 personnes qui sont bloquées en haut de cet escalier et qui attendent le droit d'entrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la salle où va se dérouler réellement le vote. Les grands électeurs passent d'abord devant une table recouverte d'un tapis vert, où deux personnes leur remettent une enveloppe bleue et les trois bulletins de vote des trois candidats à la présidence de la République. Chaque bulletin de vote est un papier blanc, l'un au nom de Charles de Gaulle, l'autre au nom de Georges Marane, le troisième au nom d'Albert Châtelet. Et puis, c'est le rituel passage dans l'isoloir pour mettre le bulletin de son choix dans l'enveloppe électorale. Et tout se termine dans la grande salle des fêtes de l'hôtel de ville où sont dressées une série de petites tables. Je m'approche d'un de ces bureaux.
296, monsieur Le Bourris,
à voter.
Au fond de cette grande salle des fêtes, dressée sur une estrade, une table recouverte d'un tapis rouge, derrière laquelle siège monsieur Drouillat, président du tribunal civil de la Seine, et qui préside également au déroulement de ces élections.
Pensez-vous, monsieur le président, qu'il y aura des abstentionnistes aujourd'hui ?
Légalement, il ne doit pas y avoir d'abstentionnistes. Les abstentionnistes sont des délinquants. Car pour ces élections, à la différence de ce qui se passe pour les élections au suffrage universel direct, le vote est obligatoire, sous peine d'une amende de 3000 francs. Enfin, je ne crois pas que nous ayons à en prononcer, car l'expérience prouve pour les élections sénatoriales que tous ceux qui ont l'honneur d'être délégués par leurs concitoyens pour remplir un devoir électoral spécial tiennent à le remplir, et il n'y a pas d'exemple à ma connaissance d'abstention volontaire.
C'est fini, la boucle est bouclée, nous nous trouvons maintenant à la sortie, mais ce défilé se poursuivra à l'hôtel de ville de Paris jusqu'à 16h.
Résultat ? Un plébiscite pour le général de Gaulle. Il obtient 78,51% des voix. C'est un score de délégué de classe de 6e.
Avant tout, Française, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Votre résolution fut marquée lors de la crise nationale du mois de mai, affirmée par le référendum, répétée par les élections, précisée par le vote des élus dimanche dernier. La mission nationale qui m'incombe depuis 18 ans se trouve de ce fait confirmée. Guide de la France, chef de l'État républicain.
On de la traconte de Gemmeur se poursuit, et je vous raconte cette semaine, vous le savez, l'année 1958. Et là, je vous emmène en Belgique, où l'alcool coule à flot, ce qui, cette année-là, est assez dangereux. Car mi-septembre 58, dans la région d'Anvers, en Belgique, en moins d'une semaine, 7 personnes meurent empoisonnées après avoir consommé du genièvre. Frelaté. Le genièvre, c'est une eau de vie hollandaise du XVIIe siècle, ancêtre du gin et très prisé des Belges.
Ce sont ces morts et quelques bouteilles qui ont fait découvrir à la police belge un vaste réseau de production et de distribution d'alcool méthylique. Tout a commencé il y a 8 jours, quand un matelot, après avoir fêté sa première soirée à terre, a soudain perdu la vue et devait succomber peu de temps après dans d'atroces souffrances. Le lendemain, à Herentals, au cours d'une fête de mariage, une jeune femme, mère de 2 enfants, succombait à son tour, et c'est là que tout aurait peut-être pu être arrêté si le médecin de la famille n'avait pas conclu à un empoisonnement dû aux champignons.
L'autopsie de la jeune mère de famille conclut à une mort par absorption d'alcool méthylique. Le méthanol étant une substance très toxique qui peut entraîner la cécité et la mort. Et après cette jeune maman, 5 nouvelles personnes décèdent aussi par empoisonnement.
Diverses arrestations ont déjà été opérées, 4 magasins ont été fermés à Anvers, 3 distilleries clandestines et dépôts ont été découverts. Mais si la police judiciaire a rapidement mis la main sur les criminels, le danger, lui, reste. Car, chose terrible, de nombreuses bouteilles d'alcool frelaté sont toujours en circulation en Belgique. Et ce qui est pis, c'est qu'elles circulent peut-être à l'insu même des commerçants. Car cet alcool leur est fourni dans des bouteilles authentiques de marques connues. Ce crime se double donc d'une énorme escroquerie. Cet état de choses devait conduire la police judiciaire à lancer dans toute la Belgique l'avis suivant. Suite à l'enquête importante faite dans la province d'Anvers au sujet d'empoisonnement après absorption d'alcool méthylique, la population est instamment priée de s'abstenir momentanément de consommer de l'alcool, à moins qu'elle ne soit absolument certaine de l'origine et de la qualité du produit. L'attention est attirée sur le fait que l'enquête a révélé que les inculpés ne se sont pas bornés à écouler leurs marchandises sous la simple appellation alcool ou genièvre, mais également sous forme d'autres spiritueuses et liqueurs.
Vous imaginez le pataquès. La police et le ministre belge de la Santé demandent aux Belges de ne pas consommer d'alcool. Et ils supplient aussi les acheteurs d'alcool de contrebande de se dénoncer. Ils sont en danger de mort.
Tous ceux qui ont acheté des bouteilles au marché noir sont donc invités à se faire connaître, quitte même à payer une amende, si cette amende doit épargner des vies humaines. Ici René Duval qui vous a parlé de Bruxelles, Europe numéro 1.
Fin septembre 1958, la police belge réussit un grand coup de filet à Anvers. Elle interpelle tous les trafiquants de genièvre et saisit plus de 10 000 bouteilles. Mais ça ne suffit pas. Le 9 octobre 1958, Nouvelle hécatombe.
L'affaire alcool et praline méthylique, qui depuis 3 semaines remue les polices du royaume, vient de faire en Belgique 3 nouvelles victimes. Pourtant, des centaines d'avis et placards, d'articles et de reportages radiophoniques avaient alerté la population. Ce sont 3 étrangers, 3 marins de l'équipage d'un navire suédois ancré au port d'Anvers qui viennent d'être transportés à l'hôpital d'Anvers où le diagnostic a été formel, empoisonnement par alcool méthylique. Aux dernières nouvelles, l'un d'eux est dans un état très grave, la vie des 2 autres n'est plus en danger. Suivant les déclarations du capitaine suédois, l'alcool absorbé par ces marins avait été acheté dans le quartier du port. Donc, il y a encore de l'alcool frelaté en circulation. Et ce, malgré 3 semaines d'enquête, malgré le dépistage des filières, la saisie de milliers de bouteilles, l'arrestation d'une quinzaine de distillateurs clandestins et le démontage de leurs installations. Une extrême prudence est donc encore souhaitée par le ministre belge de la Justice dans le domaine de la consommation d'alcool, car la police a retrouvé en quantité considérable de l'alcool méthylique sur tout le territoire belge. Et bien que les trafiquants aient eu le siège de leur activité dans la région d'Anvers, près de la frontière hollandaise, des centaines de bouteilles ont été saisies le long de la frontière franco-belge. Il n'est même pas impossible qu'on en retrouve quelques-unes dans le nord de la France chez des amateurs de ski d'âme.
La série morbide est stoppée fin octobre 58. Ce trafic d'alcool frelaté aura tout de même tué 12 personnes. Tiens, puisqu'on parle d'alcool, écoutons ce titre qui figure sur le premier album du jeune Serge Gainsbourg en 58.
Mes illusions donnent sur la cour, des horizons j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour, j'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après 1000 peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses, de quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, sinon qu'indifférence et mélancolie, dans mes frusques couleurs de muraille. Je joue les épouvantails, mais nom de Dieu dans mon âme, brûlait pourtant cette flamme où s'éclairaient mes amours et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Aujourd'hui je fais mon chemin solitaire, toutes mes ambitions se sont fait la paire. Je me suis laissé envahir par les orties, par les ronces de cette chienne de vie. Mes illusions donnent sur la cour, mais dans les troquets du faubourg, j'ai des ardoises de rêverie et le sens de l'ironie. Je me laisse aller à la tendresse, j'oublie ma chambre au fond de la cour, le train de banlieue au petit jour, et dans les vapeurs de l'alcool, je vois mes châteaux espagnols, mes haras et toutes mes duchesses. À moi les petites pépées, les poupées jolies.
Les alcool, titre de Serge Gainsbourg en 1958.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1958.
Vous le savez, tous les jours, je descends dans la cave d'Europe 1, où se trouvent nos archives, à la recherche de pépites, pour vous raconter une année. Et cette semaine, c'est l'année 58. Et voilà une pépite. En septembre 58, Édith Piaf, qui a 43 ans, décide d'apprendre à chanter à son nouvel amant, qui s'appelle Georges Moustaki, et qui a 24 ans. Et tout ça chez elle, avec le micro d'Europe numéro 1 pour témoin.
Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Il y a des filles sur le port.
Attends, Jo. Tu vois, c'est difficile d'expliquer, évidemment, surtout dans cette chanson-là.
Ce n'est pas tout à fait ton style.
Non, c'est pas mon style. Tu vois, si tu chantais Jean l'Espagnol, je pourrais mieux t'expliquer tes défauts, tu comprends? Chante-moi plutôt genre l'espagnol.
Oui, mais alors là, nous sommes en concurrence directe.
Oh ben, qu'est-ce que tu veux, tant pis, je me ferai une raison.
Sur le chemin de Notre-Dame, il y avait Jean l'Espagnol, qui allait pour sauver son âme offrir un cierge à la Madone. Jean l'Espagnol, t'aurais pas dû voler la corde du pendu. Madame la Vierge Marie, si j'ai volé, si j'ai menti, pardonnez-moi, je vous en prie. J'ai déjà tant et tant souffert, m'envoyez pas en enfer. Sur le chemin, il y avait une fille qui s'en allait tout doucement.
Alors, tu vois, je vais t'arrêter parce que je vais te dire maintenant les choses que je peux t'expliquer. Par exemple, tu vois, quand tu arrives au refrain, c'est une prière. Tu vois, Madame la Vierge Marie, si j'ai volé, si j'ai menti, il faut que tu te donnes plus. Tu comprends? Il faut que vraiment ça soit une supplication. Tu vois, que tu demandes le pardon. Et ça, on ne le sent pas suffisamment. Tu ne te donnes pas assez. Tu ne sors pas assez ta voix. Et ça, je pense qu'il faut que tu travailles beaucoup.
Edith Piaf, coach. Comme on dirait aujourd'hui, le jeune espoir de la chanson française, Georges Moustaquet. Mais si pour Piaf, il est encore un peu vert pour le chant, côté texte, elle est comblée. Ce 3 septembre 58, Moustaquet vient de finir un titre dans la nuit, T'es beau, tu sais. Et il a présenté cette chanson à Edith Piaf, juste avant l'arrivée d'Europe numéro 1.
On pourrait peut-être en donner un petit bout, oui. une petite idée. Où sont les paroles? Attends. Voilà. Tiens, elles sont sur le piano.
Attends, je vais mettre au piano.
Ah, oui, ça c'est pas ce que tu fais de mieux, mais enfin. Alors, on va faire un petit bout de celle-là d'abord. T'es beau, tu sais, et ça s'entend lorsque tu passes. T'es beau, c'est vrai, j'en suis plus belle quand tu m'embrasses. Je te désire du bout des doigts, ton front, tes yeux, ta bouche. Comment veux-tu dessiner ça? La main me tremble quand j'y touche. T'es beau, mon grand, et moi, tu vois, je suis si...
Trois jours après ce reportage d'Europe numéro 1, les deux artistes s'encastrent dans un camion. C'est Georges Moustaki qui conduisait la voiture, où se trouvait aussi le boxeur Marcel Cerdan.
Comment allez-vous depuis hier?
Écoutez, mon état est tout à fait bien.
Vous ne souffrez pas du tout? Vous avez bien dormi?
Très bien dormi et je me suis réveillé en bonne forme.
Vous pensez sortir quand de l'hôpital?
En sortir aujourd'hui ou demain.
Et comment va votre compagnon de chambre, Marcel Cerdan?
Il va bien. Vous dormez tout à fait bien.
Vous avez des nouvelles précises d'Edith Piaf ce matin?
Edith Piaf n'a que des choses superficielles.
Oui.
Dont elle ne gardera pas trace d'ici quelques jours.
Oui.
Enfin, d'ici 15 jours, elle sera tout à fait... Je vous dis une longue date, d'ailleurs.
Oui.
Pour plus de sûreté. Elle n'en gardera pas trace.
Oui.
Selon l'avis des médecins.
Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de son bras ou de sa main? Parce que on a dit ici à Paris qu'elle avait le bras cassé, ensuite
oui,
que sa main...
C'est une erreur, ça.
Oui. Alors, quel est exactement l'état de sa main droite?
Elle a juste eu deux tendons de coupé.
Oui.
Qui a été opéré hier.
Oui.
Et donc, c'est plus impressionnant que grave.
11 jours plus tard, Edith Piaf, qui est toujours à l'hôpital, ouvre en exclusivité la porte de sa chambre à un jeune journaliste d'Europe numéro 1 qui s'appelle Pierre Bonte.
C'est une petite chambre au mur vert pâle dont les fenêtres donnent sur un jardin du quartier de Passy, la classique chambre de clinique. C'est là qu'Edith Piaf se remet lentement de l'accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Edith Piaf a la tête abandonnée sur l'oreiller. Elle semble encore très lasse. Edith Piaf, comment vous sentez-vous?
Eh bien, mon Dieu, je vais beaucoup mieux. Et je pense aller être très vite sur pied.
Vous êtes encore pour le moment allongé. Vous ne vous êtes pas levé depuis l'accident.
Oh, c'est-à-dire en cachette du docteur. Oui,
mais très peu de temps.
Oui, très peu de temps.
Alors décrivez-vous un peu.
Eh bien mon Dieu, moi je me trouve pas jolie à voir, évidemment. En ce moment, je me préférais avant. Mais il paraît que je vais redevenir comme j'étais, alors c'est le principal.
Moi je vais me permettre de vous décrire, alors vous avez une cicatrice au front encore.
J'en ai même deux. Vous savez, j'en ai une en travers et une en diagonale.
Une en diagonale. Il y a une cicatrice à la lèvre supérieure aussi.
Oui.
Qui vous empêche d'ailleurs un peu de parler pour le moment, mais oui. C'est provisoire, je crois.
Oui, c'est très. J'ai eu la chance de tomber sur un chirurgien esthétique qui m'a, je crois, très bien refait tout ça.
Edith Piaf, c'est, je crois, au moins le deuxième ou troisième accident de voiture auquel vous échappez.
C'est le troisième.
Troisième accident.
Maintenant, je suis tranquille.
Et chaque fois, vous avez échappé à la mort presque par miracle. Est-ce que vous croyez au miracle?
Ah oui, moi je crois. D'ailleurs, je crois en tout, moi. Vous savez, je suis une croyante née. Alors même si je me trompe, je crois. Je veux croire.
D'après les médecins, Edith Piaf, quand espérez-vous sortir de cette chambre de clinique?
Eh bien, j'espère sortir lundi. De là, j'irai me reposer à la campagne, évidemment, pour essayer de m'en remettre tout à fait pendant un mois ou deux. Et puis, je recommencerai à chanter.
Mais il n'est pas question que vous ne chantiez plus.
Mais alors, écoutez, autant dire que je suis morte. Alors, parce que le jour où je chante plus, je suis morte. Alors, vous voyez bien que je ne suis pas morte. Donc, je rechanterai.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord.
Milord, chanté par Edith Piaf, titre offert cette année-là par son fiancé, Georges Moustaki.
L'année 1958.
Vous le savez peut-être, mais pendant que je vous parle, j'ai à mes pieds, comme toujours, mon fidèle Fox Terrier, Jaco. Alors cette histoire, elle est pour lui. Et elle est pour vous qui aimez les clébards. Le 6 décembre 1958, en Belgique, à Bruxelles, le reporter d'Europe numéro 1, René Duval, rencontre une dame aveugle, Madame Merveille, qui est soutenue par l'association d'entraide, la Ligue Braille.
La grande tombola des aveugles, 20 francs le billet, 100 francs le carnet. Risquez votre chance. Les billets sont vendus au bénéfice de tous les aveugles, 20 francs le billet.
Cet aboiement, c'est celui de Nicky, le berger allemand de Madame Merveille. Et ce chien, c'est un guérisseur. Madame Merveille, racontez-nous votre extraordinaire histoire.
Je dois vous avouer que je ne pourrais jamais faire assez pour la Ligue Braille, parce que la Ligue Braille est très bonne pour moi. Elle m'a fait don du chien il y a 3 ans, qui ne m'a jamais quitté et qui ne me quittera jamais, je suppose. Alors voici, le 10 novembre, j'ai demandé à mon épicier, qui est mon voisin, pour me porter mes petits pains. Mais voilà que vers 5h30 du matin, Nicky, mon chien Guy, m'a demandé pour aller au jardin. Ça a duré un petit quart d'heure, cette petite promenade. J'ai remonté avec mon chien. Alors je me suis dit, c'est tout de même un peu trop pour un dimanche, un jour de fête, de rester levé. Je me suis donc recouchée. Et Nicky, au lieu d'aller sur son divan, est venu sur le mien, au-dessus des couvertures, a déposé sa lourde tête, sa bonne tête entre mes bras, et nous nous sommes apaisés, nous nous sommes donc réendormis jusqu'au moment où on a sonné deux petits coups à maçonnerie électrique pour dire que les petits pains étaient devant la porte. Alors Nicky s'est relevé, et Nicky a déposé, gentiment, pas brusquement, mais enfin, de tout son poids, sa patte a été sur mon œil, et il s'est redressé. Et j'ai dit, mon Dieu, Nicky, qu'est-ce que tu viens de faire là? Et instantanément, j'ai vu, comme on peut dire en français ou en bruxellois, je ne sais pas, 36 000 chandelles. Ça n'a duré qu'un millième de seconde, parce que plus que ça, ça n'a pas duré. Alors j'ai enfilé mon peignoir, mes pantoufles, et je suis descendue. Et en descendant, j'ai dit à la bonne de la maison, je vois, mais je vois tout violet. Et cette personne m'a demandé si éventuellement j'avais mal dormi ou si je dormais encore.
Elle ne vous croyait pas.
Ah non, elle ne me croyait pas, bien sûr que non. C'est presque pas croyable parce que moi, je sais que ça m'est arrivé. Mais quelqu'un à qui je raconte l'histoire, il ne le croit pas non plus, pas même encore maintenant.
Et pourtant, vous me voyez, moi.
Et moi, je vous vois, mais je vous ai dit, vous étiez très foncé de cheveux.
Exactement.
Vous avez des yeux noirs, vous avez un par-dessus couleur grèche.
C'est ça, exactement ça. Comment le médecin explique-t-il ?
Le médecin explique que, en somme, c'est ce qu'on faisait il y a 60-70 ans aux gens qui avaient la cataracte. Quand la cataracte était mûre, on leur donnait un choc, on ne l'opérait pas, elle flottait dans l'œil.
Madame Merveille ne retrouve qu'une vue approximative, mais elle est comblée par ce miracle.
Évidemment, je vois, mais je n'aurai jamais une vision normale. Enfin, ça fait même pas un vingtième. Évidemment, je ne peux pas encore faire beaucoup avec mes yeux. C'est splendide. Il y avait 16 ans que je n'avais plus vu le visage de mon fils. Je connaissais pas ma belle-fille.
Et vous avez vu pour la première fois vos petits-enfants.
Et j'ai vu pour la première fois mes petits-enfants. Et j'espère que je puis encore voir assez longtemps pour m'intéresser à la nouveauté du monde. Parce qu'en somme, c'est un nouveau monde qui commence pour moi maintenant.
Je vous remercie, Madame Merveille. Ici, René Duval, qui vous parlait de Bruxelles, Europe numéro 1.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare.
Vous avez reconnu ce tube de Domenico Modugno en 58, Volare.
Cantare.
Ben voilà, ainsi s'achève ce deuxième épisode. Je salue bien bas ceux qui m'ont aidé à le bâtir, Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski à la réalisation. La suite de notre voyage au cœur de l'année 58 dans le troisième épisode d'Onde la Traconte, une année.
Retrouvez Onde la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.